Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, pourquoi êtes-vous là? Pour assister à la messe, me direz-vous? Oui, mais pourquoi pas dans l'église paroissiale de chez vous? Pourquoi venir jusqu'ici? Vous répondrez, pour avoir la messe traditionnelle. Oui, mais vous pourriez très bien aller à Notre-Dame de Victoire. Ils ont une église très belle, spacieuse, avec un parking goudronné et des gens sympathiques. Pourquoi venir jusqu'ici? Pourquoi braver les nids de poules qui abîment votre voiture pour prendre place dans une église exiguë où on ne voit souvent presque rien? Et en plus, si vous alliez à la messe à Notre-Dame des Victoires, vous seriez en règle avec les autorités de l'église, parce que la messe est célébrée là-bas par indult, c'est-à-dire avec la permission de l'évêque. Vous ne seriez plus traité par votre famille, vos amis et vos collègues d'intégristes, de schismatiques, de fascistes et de complotistes. C'est très tentant. Mais alors, pourquoi ne peut-on pas aller à la messe à Notre-Dame des Victoires ou bien à n'importe quelle autre messe d'indult? Nous allons voir les raisons en les classant dans trois catégories. D'abord, les raisons non valables, les raisons valables mais accidentelles, et puis la vraie raison essentielle. D'abord, les raisons non valables pour déterminer le choix d'un lieu de messe. Ce seraient les horaires, la proximité, l'habitude, les amitiés, la personnalité du prêtre, sauf, bien sûr, toutes choses étant égales par ailleurs. Si vous trouvez deux endroits où rien ne vous empêche d'y aller pour la messe, il est évident qu'on peut choisir le plus pratique. Mais voyons maintenant les raisons valables mais accidentelles. Par accidentelles, nous ne voulons pas dire sans importance, mais des raisons qui n'existent pas toujours, des choses qui, parfois, ne s'appliquent pas, mais qui sont quand même des choses qui arrivent dans la plupart des cas. C'est d'abord, premièrement, le danger des influences modernistes et mondaines. Donc, principalement dans les sermons, les erreurs non dénoncées, les erreurs modernes de l'écuménisme, la liberté religieuse et les autres erreurs de Vatican II, ces erreurs-là ne sont pas dénoncées. Si on dénonce parfois quelques excès de l'Église conciliaire, on ne dénonce jamais les erreurs de fond, et surtout pas le Concile Vatican II, qui est l'égout collecteur des hérésies modernes. Ils ne le peuvent pas, car cela remonterait à l'évêque, qui les tient en laisse. J'ai entendu de mes propres oreilles un prêtre d'une communauté ralliée me dire « Oh, on ne peut pas dire ça aux fidèles, parce que si on le dit, l'évêque nous retirera la permission de faire les baptêmes. » Et d'ailleurs, la plupart des prêtres qui célèbrent la messe d'indult ou dans les communautés ralliées ne veulent pas prêcher contre Vatican II. Je vous cite une phrase prononcée par celui qui célèbre actuellement la messe à Notre-Dame des Victoires. C'est public, hein, c'était dans le bulletin. J'essaie depuis des années de montrer que le Concile Vatican II peut et doit être reçu non comme une rupture, mais comme une continuité avec le magistère précédent. Alors, c'est évident que dans ses sermons, il ne va pas critiquer Vatican II. Donc, ces erreurs ne sont pas dénoncées et cela suffit pour faire perdre l'esprit de foi. Il suffit de ne plus entendre certaines choses pour perdre l'esprit de foi. Et que dire des sermons où les erreurs sont carrément prêchées? À part les sermons eux-mêmes, il y a les annonces diocésaines, les invitations aux cérémonies modernistes ou charismatiques, des conférences de pèlerinage, le nouveau calendrier liturgique avec ses faux saints, comme Jean-Paul II, qui a baisé le Coran, les nouvelles dévotions avec les mystères lumineux, les fausses apparitions comme Medjugorje, et enfin les fidèles eux-mêmes, qui sont certainement de bonne volonté, mais qui peuvent être, malgré eux, vecteurs de mondanité par leur tenue ou par leur conversation. Alors, après cela, il y a deuxièmement les doutes sur la validité des sacrements. Il y a des endroits où la messe d'Andiut est célébrée par un ancien membre de la fraternité Saint-Pédis, qui a été donc ordonné par un évêque traditionnel. Et donc là, pour le coup, c'est un prêtre. Mais c'est rare. Tous les autres sont ordonnés par des évêques conciliaires. Et donc, même s'il a été ordonné dans le rite traditionnel, il peut y avoir des doutes sur l'ordination de l'évêque qui l'a ordonné. Les communautés ralliées n'ont pas d'évêques comme nous. Monsieur Lefebvre a sacré 4 évêques exprès pour que les gens soient sûrs des sacrements qu'ils reçoivent. Alors, troisième chose, c'est le mélange des ciboires. Il y a un risque que les hosties consacrées à la nouvelle messe soient distribuées à la messe traditionnelle, ou vice-versa, qui serait l'occasion du sacrilège si les gens prennent les hosties consacrées dans la messe traditionnelle dans la main. Donc voilà pour ces raisons accidentelles. Mais ces raisons-là, qui sont valables quand même, ne sont que les conséquences du vrai problème de fond. Alors, quelle est la raison essentielle pourquoi on ne peut pas aller à ces messes? C'est que la messe n'est pas une dévotion privée. Une dévotion privée, comme le chapelet, un chemin de croix, etc., reste l'affaire personnelle de celui qui le récite. Elle n'engage que lui. Mais la messe est différente. La messe est un acte de culte officiel, public, accompli au nom de toute l'Église. En célébrant la messe, le prêtre n'agit pas en tant qu'homme particulier, mais en tant que ministre de l'Église. Même une messe basse, célébrée avec un seul servant dans la crypte à 5h30, est un acte réellement public et officiel de l'Église. Dès lors, la messe a une dimension sociale, publique, officielle, que ceux qui y assistent le veuillent ou non, et même s'ils n'y pensent pas. Alors, quel est le rapport justement avec notre sujet? C'est que ce caractère public de la messe entraîne évidemment des conséquences. Agissant comme ministre de l'Église, le prêtre doit remplir certaines conditions. Également, il y a nécessairement un lien entre notre assistance à la messe et la position publique de la structure ecclésiastique à laquelle appartient le prêtre qui célèbre la messe. C'est-à-dire, en assistant à telle messe, nous cautionnons par le fait même la position publique du prêtre célébrant. Et la position publique du prêtre ne peut être que la position publique de l'autorité dont il dépend, l'organisation à laquelle il appartient librement, et cela, quelles que soient ses opinions personnelles. Par exemple, en assistant à une messe célébrée par un prêtre qui appartient à une église schismatique, les Grecs schismatiques par exemple, en assistant à sa messe, on pose publiquement un acte publiquement schismatique, même si on n'est pas d'accord avec le schisme, et même si le prêtre lui-même n'est pas d'accord avec la position schismatique de ses supérieurs ecclésiastiques. En assistant à une messe célébrée par un prêtre qui dépend des autorités de l'Église conciliaire, on déclare publiquement, qu'on le veuille ou non, qu'on est d'accord avec les positions de l'Église conciliaire. Donc la conclusion est claire, nous n'avons pas le droit de participer aux messes célébrées par un prêtre diocésain dans le cadre d'un indulte donné par un évêque conciliaire. car en ce faisant, nous cautionnons les dérives de l'Église conciliaire. Pachamama, tout le programme LGBT, etc. Et surtout, on cautionne, alors ça peut paraître paradoxal, mais on cautionne la grande dérive de l'Église conciliaire, la nouvelle messe elle-même. Parce que les termes de cet indulte qui a été promulgué en 1984, alors les termes de cet indulte sont très très clairs. Hein. Il y a l'obligation de reconnaître la légitimité de la nouvelle messe. Je vous lis la première condition qui est donnée pour pouvoir dire la messe traditionnelle dans les diocèses. Qu'il soit établi sans ambiguïté et même publiquement que le prêtre et les fidèles en question n'ont aucun lien avec ceux qui mettent en doute la légitimité et la rectitude doctrinale du mystère romain promulgué en 1970 par le pontife romain Paul VI. Alors, eux aussi, ils reconnaissent cette importance de le lien public avec les autorités. Et il en va de même pour toutes les messes célébrées par des prêtres qui appartiennent à des groupes Ecclesia Dei. Alors, Ecclesia Dei, c'est un terme qui vient d'un motu proprio qui, là, pour le coup, c'était en 1988, à l'occasion des sacres que Mgr Lefebvre a fait. C'est un motu proprio de Jean-Paul II déclarant Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer excommuniés, non seulement parce qu'ils ont sacré quatre évêques, mais parce qu'ils refusaient d'inclure Vatican II dans la tradition. Ce motu proprio renvoie aussi explicitement à l'indulte de 1984, où il faut reconnaître le nouvel ordre de la nouvelle messe. Et donc, toutes les communautés acceptées officiellement par le Rome conciliaire ont ce motu proprio comme charte de fondation. Donc, ils acceptent le Concile Vatican II et reconnaissent la nouvelle messe, que la nouvelle messe est bonne, même si eux, ils ne le célèbrent pas. Alors, ce motu proprio a donné lieu à la création d'une commission à Rome chargée de s'occuper de ces communautés. Cette commission n'existe plus, mais on utilise toujours ce nom Ecclesia Dei pour désigner ces communautés qui, eux, existent et qu'on appelle communément des ralliés. Alors, ces choses sont peut-être un peu difficiles à comprendre pour notre mentalité individualiste du XXIe siècle. Chacun vit sa vie et laisse les autres faire de même. Et la religion est considérée comme un choix personnel. On n'a même plus l'idée que nos actes religieux puissent avoir une dimension sociale, que notre choix du lieu de messe puisse entrer dans un cadre plus large que notre vie individuelle, dans le cadre de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soit dit en passant, pour les familles, cette idée de l'aspect social de la religion, ça s'inculque en famille, par la prière en famille. La prière en famille, ce n'est pas une collection d'individus qui prient chacun individuellement dans la même salle, la même pièce. C'est la prière de la famille, en tant que famille, comme les gouvernements qui sont obligés de reconnaître Jésus-Christ en tant qu'État. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les parents, les grands et les petits. Alors on peut poser peut-être quelques objections. Par exemple, le prêtre qui célèbre la messe d'indulte, il est si bien. Vous devez l'entendre critiquer le pape François. Il est plus critique que nous, il est vraiment très dur. Peu importe ses positions personnelles, il peut très bien critiquer le pape François dans sa sacristie ou sous le parvis. Mais ses positions personnelles ne rentrent pas en jeu quand il agit comme ministre de l'Église à l'autel. Il faut savoir, chers fidèles, il existe des prêtres conciliaires, soit qui disent la messe traditionnelle, même parfois qui disent la messe nouvelle, qui ne cite pas le nom de François dans le canon. Mais ça ne change rien. Alors, notre objection, je suis étudiant. Et dans la ville où je fais mes études, bah, parfois, il n'y a pas. Il n'y a que la messe d'Indut ou la messe des Auraliers. Par exemple, le mercredi des cendres, il n'y avait pas de messe pour moi. Mes amis qui sont ralliés sont allés, ils avaient des cendres. Eux, ils témoignaient de leur foi dans la ville avec les cendres sur le front. Et moi, j'avais l'air un peu ridicule. En tout cas, on ne comprenait pas. Parce que je suis connu pour être catholique, puis je ne vais pas à la messe. Est-ce que je ne peux pas aller quand même dans ce cas-là? Mais non. En fait, si vous y allez une fois, vous perdez toute crédibilité. Vous ne pouvez plus critiquer le choix. Et vous devenez muselé par rapport à eux, comme eux, ils sont muselés par rapport à Vatican II. On ne peut pas témoigner publiquement de sa foi avec des cendres conciliaires. Donc aujourd'hui, dans ce dimanche des missions, nous ajoutons ces prières pour que la foi de Jésus-Christ se répande dans le monde. Essayons de rayonner par notre foi nous-mêmes dans les choix parfois difficiles dans la vie. Non seulement par les paroles, mais dans les choix difficiles. C'est vrai que c'est difficile parfois, mais c'est d'autant plus méritoire. Et c'est aussi enthousiasmant. Le combat de la foi a toujours été enthousiasmant. Même si c'est difficile. Alors, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie en ce dimanche des missions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.